Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Moi, c'est Clémentine.
Moi, c'est Adrien.
On est tous les deux passionnés d'aviation.
Et aussi de voyage.
RTL.
On a décidé de parcourir la planète.
Pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utile.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous voilà donc, embarqués dans un tour du monde en 14 mois, à bord de notre avion ultra léger.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Faire le tour du monde en ULM pour aider des scientifiques de toutes nationalités, c'est l'aventure un peu folle et très passionnante que l'on vous raconte maintenant avec nos invités Clémentine Bacry, qui est avec nous en direct au téléphone, et Adrien Normier dans le studio RTL de la Curiosité. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Juste pour poser le décor, on va ensuite évidemment rentrer dans le détail, raconter un certain nombre d'étapes et surtout la genèse de ce tour du monde pas comme les autres. Allez, une première histoire. Vous êtes en train de passer au-dessus des Bahamas et de Porto Rico quand un ouragan vous oblige à vous poser. Alors, où est-ce que vous vous posez? Et puis tout simplement, qu'est-ce que vous cherchez?
Alors, on était perdu au beau milieu des Bahamas, dans les Exumas, précisément, en route entre deux missions scientifiques, et on apprend l'arrivée d'un gros ouragan. Et on a fait le choix un peu difficile de le prendre de vitesse, en fait, d'aller vers l'ouragan pour aller se cacher à un endroit où on pensait qu'on aurait des facilités à planquer l'ULM, à Porto Rico. On arrive là-bas, on trouve un hangar, génial, quasi désert. Le gars en charge nous extorque une somme incroyable pour passer la nuit dans le hangar.
C'était genre 200 euros, c'est ça, si
oui, 150 souviens, dollars, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et, mais bon, nécessité fait loi, donc on y reste. Et puis le lendemain, on revient juste avant l'arrivée des vents violents et on découvre que ce hangar a les portes grandes ouvertes. Alors on demande, c'est pas possible de fermer les portes? Fermer les portes? Non, mais elles ferment pas.
Vous avez demandé un hangar,
elle
c'est ça?
Elle ferme pas, vous avez demandé un hangar, pas un hangar avec des portes qui ferment.
Donc on ressort l'avion
et on cherche une autre solution qui nous est proposée par un instructeur ULM local. Faire un petit vol d'une dizaine de minutes jusqu'à une petite piste ULM où là, on va pouvoir démonter les ailes de l'avion et le ranger dans un conteneur qui est à côté de sa maison.
Et pendant ce temps-là, l'ouragan est en train d'arriver, c'est ça?
Pendant ce temps-là, l'ouragan arrive. Et puis comme une petite aventure ne vient jamais seule, au moment où on décolle, boum, les températures moteurs qui augmentent exponentiellement et on n'a pas d'autre choix que de se reposer immédiatement. Donc nous voilà reposés avec notre moteur qui surchauffe. On a tellement peur qu'on appelle les pompiers qui viennent avec des énormes camions pour éteindre l'incendie d'un 747.
Vous avez un ULM, je le rappelle.
La trouille d'après, c'est qu'il vaporise l'ULM en appuyant sur la gâchette des lances à incendie.
Et qu'on voit plus l'ULM, c'est ça?
Et qu'on voit plus l'ULM.
Non.
Alors non, ça c'est la peur qu'on a eue, ça s'est pas réalisé. Le moteur a refroidi, rien n'a explosé, mais on s'est posé la question de maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'on avait l'ouragan qui arrivait et toujours pas d'endroit où se cacher. Du coup on a fait deux groupes de 1, moi je me suis occupé de faire quelque chose pour enlever l'ULM de la piste et de régler toutes les problématiques avec les autorités aéroportuaires qui se demandaient pourquoi on avait fait un atterrissage d'urgence, et Clémentine, elle, est partie chercher une solution. Et finalement c'est un garde-côte américain qui nous a accepté dans son hangar, la main sur la poitrine. Lorsque j'ai devant moi une femme en détresse, Clémentine était en pleurs. Je ne peux rien faire d'autre que de les aider. Et on a fini dans le hangar des hélicos des gardes-côtes.
Avec une porte.
Avec une porte.
Vous avez bien serré fort. Adrien Normier, vous êtes pilote de ligne. Expliquez-nous ce tour du monde, pas comme les autres. C'est quoi le concept? C'était quoi l'idée?
Alors l'idée de départ, ça date, c'est quand on était plus petit. Là j'ai 33 ans, ça date quasiment de quand j'en avais 23. On avait envie de changer de nos univers professionnels, de nos univers. Nous, moi je partais vers des études aéronautiques, j'avais l'ambition d'être pilote de ligne. Clémentine, elle allait devenir avocate. Et on se disait, quand on sera grand, un jour on ira voir ce que c'est que la planète. Et on avait eu tous les deux, pour différentes raisons, l'occasion d'être impliqués dans des projets locaux. Et on s'est dit, le jour où on ira voir la planète, on voudra s'impliquer dans des projets locaux. Et puis de fil en aiguille, il se trouve que moi, avec mes études de pilote, mes copains ingénieurs m'ont appelé pour me demander de faire des petites manips avec des avions. Ah, tu veux pas aller faire des mesures de gaz, des prélèvements atmosphériques? Ah, tu veux pas aller faire des photos de ma zone de fouille? Et on s'est dit que là, il y avait quelque chose. Et on est venu en proposant à tout un collège d'amis qui maintenant travaillent dans l'univers de la recherche, eh bien, nos services avec un moyen ultra léger.
Et là, donc on va vous faire des photos aériennes, nous prendre des données aériennes et vous les offrir, c'est ça?
C'était
la promesse de ce tour du monde.
La promesse,
aux scientifiques du monde entier, venez, on est prêt à vous aider, c'est ça?
On est prêt à vous aider.
Mais on est fou, on est gratuit, on est là pour vous.
Alors on est fou, on est gratuit, vous payez quand même l'essence.
Ah oui, quand même.
Et vous nous logez aussi.
Bon.
Voilà. Et puis on a eu plein de réponses. Et on a eu tellement plein de réponses qu'on en a eu des quatre coins de la planète parce que les gens se sont renvoyés en fait l'appel à projet. Et bah, on s'est aperçu qu'on pouvait faire un relais les points qui faisait un tour du monde.
Pourquoi un avion, Adrien, un normier aussi petit que l'ULM?
Alors pourquoi un avion aussi petit?
C'est parce qu'il fallait que ce soit absolument léger, c'est ça?
Plein de raisons. D'abord, on voulait avoir un impact environnemental faible. Donc il fallait quelque chose qui consomme peu. Ensuite, on avait des ressources limitées, des sponsors et des partenaires certes, mais pas en quantité infinie. On n'est malheureusement pas encore Solar Impulse. Et du coup,
il fallait... Qui est en train de survoler, là, d'ailleurs.
Qui est en ce moment même, là, à 16 ou 17 heures de vol au-dessus du Pacifique, avec pas de possibilité de retour. C'est complètement fou.
C'est le point le plus compliqué de ce tour du monde pour Solar Impulse. Là,
l'un des points, mais en tout cas, là, il y a...
Bon, enfin, on ferme la parenthèse, vous avez plein de trucs à nous raconter.
Quelle était la question, du coup? Je me suis perdu.
Oh, laissez tomber, c'est pas grave. Non, je parlais de la légèreté de l'ULM.
Ah et oui.
Pour nous qui sommes des terriens,
pourquoi cet avion?
Ça a l'air tout fragile, tout léger. Alors, pourquoi un petit ULM?
Très économique, très écologique, simple à maintenir, simple à comprendre. Il fallait que moi, je sois capable d'évaluer la capacité de ce machin à voler alors qu'on est au milieu du Groenland ou du bassin amazonien. Et puis, silencieux aussi, parce qu'on a pas mal d'observations de biodiversité à faire en route. Voilà, c'est ce qui a aiguillé nos choix.
Bon
alors,
choix.
On a encore plein de questions à vous poser, plein d'aventures à raconter. Et on va entendre dans un instant votre compagne et copilote, celle qui a participé à ce voyage et à ce projet fou avec vous, Clémentine Bacry. Elle va nous raconter qui vous a sponsorisé. Et puis ensuite, on va partir pour une première destination, ce sera l'Islande. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
George Lang, qu'on entendait à l'instant, qui sera notre invité demain. On va revivre les 60s et entendre de la bonne musique californienne. Ça va faire du bien. On est avec un couple d'aventuriers, Clémentine Bacry, Adrien Normier, une avocate, un pilote de ligne, qui nous raconte leur tour du monde en ULM, réalisé il y a 2 ans, plus de 50 pays survolés, 60 000 kilomètres au compteur de leur petit avion pour aider des scientifiques. Clémentine Bacry, on est avec vous en direct au téléphone. Vous êtes donc avocate à Paris et au Luxembourg. Comment vous avez financé ce projet génial?
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors les financements ont été une des grosses parties du projet, parce qu'évidemment c'était trop ambitieux pour nos petites finances. Donc il a fallu aller chercher des sponsors. On a eu de la chance, on a été pas mal soutenus parmi les Français. Je peux citer, il y avait Acute 3D, il y avait Finesse Max, c'était dans le domaine aéronautique, il y avait Zodiac Aerospace pour le matériel de survie, il y en avait comme ça beaucoup. Il y avait pour les films, on a eu la chance d'avoir la Cité des Sciences qui nous a soutenus, et le CNDP notamment. Et alors il y en a encore beaucoup d'autres, mais ils sont tous sur notre site internet. Et c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser ce projet. Il y a une partie qu'on a dû financer nous-mêmes en faisant un emprunt, mais l'un dans l'autre on s'en est sorti.
Combien ça a coûté au total ce tour du monde, Clémentine?
Alors sur l'intégralité du projet, donc le financement de 14 mois de voyage, on en a eu pour 300 000 euros.
Et comment ils réagissent, vos employeurs respectifs, puisque Adrien est pilote, vous êtes avocate? Faut partir pendant 14 mois quand même, c'est pas rien.
Oui, alors effectivement, c'était un sujet un petit peu délicat. Alors je laisserai Adrien répondre pour son employeur, mais en tout cas pour le mien, donc faut m'imaginer, à l'époque j'étais donc avocate d'affaires au Luxembourg. C'est un peu loin du domaine aéronautique ou scientifique.
Bah oui.
Et donc la première chose, c'est quand il a fallu que je leur explique que je voulais partir, leur première angoisse c'était savoir chez quel concurrent j'allais. Et donc lorsque je leur ai dit que je partais pas dans un autre cabinet d'avocat, là ils m'ont demandé ce que j'allais faire, parce que du coup la question était ouverte. Et quand je leur ai annoncé que je partais faire le tour du monde dans une petite machine volante pour des projets scientifiques, il y a eu beaucoup d'incrédulité, ils m'ont pas cru. Puis ensuite, comme on avait déjà bien avancé sur la construction du projet, et notamment on avait déjà un site internet vitrine, ils ont pu aller voir dessus, et là ils ont vu que ça avait l'air un peu réel. Et ensuite ils ont eu assez peur pour moi, parce que une de leurs collègues qui part faire le tour du monde dans une petite machine, c'était pas courant. Et donc j'ai eu de la chance, parce que finalement ils ont accepté de me soutenir, et ils nous ont même offert une balise de détresse pour être sûr qu'on revienne en bonne santé.
Vous l'avez utilisée ou pas, cette balise de détresse?
Non, heureusement on l'a pas utilisée, mais on l'a gardée bien précieusement.
Bon, allez, on raconte l'Islande.
Ah oui, on a envie de partir en Islande avec vous. Clémentine Bacry, c'est quoi votre mission scientifique en Islande? Vous étiez fixé un objectif? Vous aviez déjà un carnet de route?
Alors, il y avait deux missions scientifiques qui ont été réalisées en Islande. Il y en avait une qui concernait les oiseaux, et une qui concernait une île volcanique. Et alors pour celle concernant les oiseaux, c'est qu'en fait, il y a un des scientifiques, un des ornithologues sur place islandais, Ingvar, qui était inquiet parce qu'il voyait que les oiseaux, les macareux, n'apparaissaient plus sur l'île aussi souvent qu'avant. Et il se demandait quelles pouvaient être les raisons pour lesquelles ils disparaissaient. Et il soupçonnait notamment des raisons liées au changement climatique. Et pour vérifier sa thèse, il nous a demandé d'aller explorer les côtes, les falaises qui étaient inaccessibles. Par l'homme, de les survoler pour voir si on pouvait pas trouver des nids d'oiseaux.
Qu'est-ce que vous avez pu observer alors justement ?
Non, on n'a pas trouvé de nids. On a fait des photos très précises, on n'en a pas trouvé, ce qui fait que ça laisse ouvert d'autres explications pour lesquelles les oiseaux ne viennent pas, parce qu'on a on s'est aperçu que les oiseaux n'étaient pas partis se cacher sur d'autres falaises islandaises, sur la petite île de Vestmann, et que donc la question est ouverte. C'est ensuite Ingvar qui a les réponses entre ses mains. Nous, on venait juste pour donner du grain à moudre et pour essayer de faire avancer un peu son projet de recherche.
C'est beau vu d'en haut, Clémentine Bacry, l'Islande. Ça ressemble à quoi ?
L'Islande est absolument sublime. C'est un pays qui est très très varié en termes de paysages. Il y a à la fois des glaciers, il y a des volcans, il y a en même temps des paysages qui sont très verts et très fleuris. Il y a même des chutes d'eau. Parfois, on a l'impression d'être dans un pays tropical. C'est vraiment sublime comme endroit.
Adrien Normier, vous, sur la route de l'Islande, vous apercevez une gloire. Moi, je ne savais pas ce que c'était une gloire. J'ai appris ça en lisant votre livre publié aux éditions Le Pommier, Un tour du monde pas comme les autres, des ailes pour la science. C'est le nom de votre projet. C'est quoi une gloire ? Gloire.
Alors une gloire, c'est un effet d'optique en fait. C'est comme un arc-en-ciel, mais vu du ciel. Quand on survole un nuage, en dessous de l'avion, à l'endroit où il y aurait l'ombre de l'avion, on voit comme un espèce de minuscule arc-en-ciel qui va d'ailleurs encadrer l'ombre de l'avion. Et c'est pour ça que les gens appellent ça la gloire du pilote. C'est juste la réflexion du soleil sur les petites gouttelettes d'eau qui va faire un cercle en forme d'arc-en-ciel.
Vous avez fait le plein d'images magnifiques pendant ce tour du monde.
Ah, extraordinaire. On parlait de l'Islande. En Islande, on survole des déserts de cailloux, on survole des cascades, on a survolé Eyjafjallajökull.
Vous réussissez à prononcer le nom, alors là, chapeau.
Non, mais on a bossé.
Une deuxième fois.
Eyjafjallajökull.
On vous le laisse.
Trop de danger.
On l'a mis en boîte comme ça, si on a le redire dans l'émission, si à la fin de l'année ou la saison prochaine, on vous diffuse.
Sympa. Bon, et pour info, les gens, parce qu'on s'est posé sur une petite piste juste au sud de ce volcan-là, les gens ont continué à voler pendant que nous, on était bloqués dans le ciel européen. Tous les avions légers localement volaient, c'est marrant. Non, l'Islande, extraordinaire, des paysages démentiels comme ça, des icebergs en forme d'arche. Et de la forêt amazonienne avec des mangroves et des oiseaux roses partout.
Et puis un souvenir assez génial quand même qu'il faut que vous nous racontiez lors de ce voyage en Islande avec Ruth, c'est une femme qui tient l'auberge où vous résidez. Qu'est-ce qu'elle vous propose comme goûter hors norme, Ruth, Adrien Normier ?
Ça, je vais peut-être laisser Clémentine le raconter.
Clémentine, c'est quoi ce goûter ?
Il vous a plu apparemment.
C'était même un petit déjeuner en fait.
D'accord.
On était sur l'île volcanique de Emae. Et il y a deux dômes de volcans qui étaient encore actifs, pas avec des éruptions, mais avec le sol qui était encore chaud. Et elle nous a proposé de partir avec elle sur le haut de ce volcan. Et tout en haut, on pouvait marcher sur la terre, mais ça chauffait, donc fallait faire attention avec les chaussures parce que pour pas que ça fonde, donc on bougeait rapidement.
Oui.
Et en fait, elle avait ces boîtes en métal dans lesquelles on peut mettre des bonbons. Des boîtes en métal, je sais pas s'il faut que je dise la marque ou pas.
Ça commence par un Q et ça se termine par un Y, et derrière il y a une rue, c'est ça ?
C'est ça, et c'est anglais. Voilà.
Okay. Bon, très bien, on les a reconnus. Et donc elle met du pain dans cette boîte-là, c'est ça ?
Elle met de la pâte à pain. Et en fait, en l'enfonçant sous la terre, on a attendu, très très curieux. Et ensuite, après quelques minutes, après à peu près une demi-heure, elle a ressorti cette boîte de sous la terre, chaude, et en l'ouvrant, il y avait du pain. Un pain de volcan, c'était absolument magique. Et là, elle a sorti du beurre et on s'est fait des tartines de pain chauffées par le volcan.
Quel délice ! Ça, c'est un bon souvenir. Ça, c'est un souvenir de gastronome. En repartant vers le pays des Inuits, vous avez eu un petit souci quand même, parce qu'on parle des choses positives, mais il y a eu aussi un petit problème de téléphone satellite qui vous a empêché de communiquer. Ça, c'est pour vous, Adrien Normier ?
Oui, alors, bon, c'est un petit ULM et on n'avait pas la possibilité d'embarquer une encombrante radio HF. Donc on avait tout un passage long, 800 km entre l'Islande et le Groenland, où là on est au-dessus de la mer et on est trop loin pour contacter le contrôle aérien par radio. On n'est pas suivi, on est tout seul. Mais enfin, c'est quand même important de donner des points de report, parce que si jamais on disparaît de la carte, va falloir peut-être venir nous chercher. Ça permet aussi d'ajuster notre horaire d'arrivée. Il se trouve que on avait mis en place une manip où, avec un téléphone satellite, on envoyait des textos qui étaient transformés en email qui arrivaient sur le contrôle groenlandais et qui, comme ça, pouvaient nous suivre. Manque de peau, je sais pas, le téléphone satellite bug, et quand on appuie sur A, ça fait B, V, ça fait Z, et ainsi de suite. Du coup, impossible de parler au contrôle aérien. Et là, on a fait un truc assez amusant. C'est finalement des avions de ligne qui font le trajet New York-Paris, qui survolent cette zone-là, qui passent souvent par la verticale du sud du Groenland, qui ont fait le relais en fait entre nous et le contrôle aérien. Donc on nous a retrouvés grâce à des copains dans des avions de ligne à des milliers de kilomètres au-dessus.
Et je vous interromps, on va continuer de raconter évidemment, excusez-moi, l'histoire de ce tour du monde pas comme les autres.
Vous écoutez RTL.
Moi, c'est Clémentine.
Moi, c'est Adrien.
L'objectif, rencontrer des scientifiques aux quatre coins du globe, participer à leurs recherches sur le terrain et leur apporter un appui aérien.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous le savez, la curiosité est un très très vilain défaut. Bon, sauf jusqu'à 22h et sauf sur RTL.
Et sauf tous les soirs du lundi au jeudi, bon, même du vendredi cette
et même
semaine.
L'été bientôt, de 15h à 16h. On vous raconte un tour du monde pas comme les autres. Vous savez qu'on les aime, ces aventuriers. C'est le titre du livre et de l'aventure de Clémentine Bacry et Adrien Normier. Un tour du monde avec un objectif scientifique. Votre expédition s'appelle d'ailleurs des ailes pour la science. Adrien Normier, grâce à vous, on voyage. Vous nous emmenez maintenant en Guyane française. Qui c'est qui fait appel à vos services cette fois?
Alors, c'est l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement, en la personne de Christophe Charron, qui nous demande d'intervenir pour l'aider à comprendre les déplacements de la mangrove et la structure de la biodiversité dans les zones de mangrove.
C'est quoi la mangrove?
Alors, la mangrove, c'est un ensemble de plantes. En fait, c'est tout un écosystème qui va se construire sur les bancs de vase à proximité de la côte, dans les zones tropicales, et qui va se déplacer en fait au fil du temps en suivant plus ou moins ces bancs de vase. En Guyane française, mais sur toute la côte du nord de l'Amérique du Sud, c'est un enjeu parce que ça crée des ressources. Il y a énormément de poissons qui vont nidifier, et donc des ressources halieutiques, mais aussi des petits soucis qui sont associés, comme par exemple la papillonite. Ce sont des papillons qui se reproduisent dans la mangrove, puis ensuite vont à côté des habitations, et on a la fâcheuse habitude de laisser des petites fléchettes partout. En Guyane, parfois, on a des semaines entières où les enfants ne vont pas à l'école pour
éviter, à
cause de ça. Parce que ce qui se passe, c'est que les fléchettes, elles restent ensuite. Et on peut s'asseoir sur le banc 3 jours après, on est piqué, et ça peut faire des déménagements vraiment très très graves.
Elles sont enlevées à la main, j'imagine, ces petites fléchettes.
Alors, faut tout nettoyer, ça prend des heures, et c'est une vraie question de santé publique là-bas.
Il y a aussi la directrice de l'académie de Guyane qui a entendu parler de vous. Comment elle a entendu parler de vous?
Alors, tout se sait. Donc, on a les gens de l'IRD qui ont parlé à leurs copains qui sont dans l'enseignement. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à une femme absolument charmante qui s'appelle Dominique. Si tu nous entends, on t'embrasse. Qui nous a organisé quelques manips. Alors, c'est amusant, on a fait un peu de science avec...
Les manips, c'est quoi?
Alors, justement, des petites manips de science avec les élèves d'une école à Regina. Ils nous avaient conçu des expériences scientifiques embarquées à bord de l'avion. Donc, dans l'ULM, on est monté avec des bouteilles d'eau, l'une vide, l'autre pleine. L'une vide, l'autre pleine. Non, l'une ouverte, l'autre fermée, qu'on a ensuite refermée à des altitudes différentes. On a filmé tout ça et puis observé les variations de la pression, la présence d'eau dans l'air qui a fini par se condenser sur les parois de la bouteille. Et ainsi, permettre aux élèves de mettre en œuvre une expérience, d'en analyser avec nous les résultats. Et un autre truc dément, ils avaient parié que c'était impossible qu'il y ait du sable du Sahara au-dessus de la forêt amazonienne, et ils ont pu faire l'expérience du contraire. Après avoir nettoyé les ailes avant le vol, on est parti faire un vol d'une quarantaine de minutes, et au retour, avec un chiffon, de la poussière bien jaune, qui, une fois passé au microscope, s'avère être du sable. Voilà.
Qui arrive du Sahara?
Ouais, en Guyane.
Grâce au vent portant, ça marche comment, docteur? Grâce aux alizés, c'est
voilà.
Ça? D'accord, c'est impressionnant.
Clémentine Bacry, vous êtes la copilote d'Adrien Normier. Vous êtes en Guyane française, au cœur de la forêt amazonienne, et vous troquez votre ULM contre un autre moyen de transport. Mais lequel ?
C'est pour rejoindre justement une autre école qui nous avait aussi invité, qui était une classe qui était, dont l'enseignant était Daniel, qu'on salue aussi d'ailleurs s'il nous entend. Et pour rejoindre son école qui était basée à Trois-Palétuviers, donc c'est un village amérindien dans la forêt amazonienne, et bien il a d'abord fallu prendre la voiture et puis ensuite prendre la pirogue pour rejoindre les enfants sur place qui eux se déplacent de village en village en pirogue sur le fleuve Amazon.
Et ça se pilote, conduit facilement, Adrien, vous qui êtes pilote d'avion, une pirogue, c'est dur ?
Alors la première qualité du pilote, c'est la géographie, et vous aurez bien entendu reconnu le fleuve Oyapock. Une pirogue, non, ça se pilote très simplement.
Petite correction.
C'est un affluent de l'Amazon.
Non, vous vaniez comme ça quand vous étiez à bord de l'ULM sur les longues traversées, il y avait des vannes aussi entre vous ?
Oui, alors c'est un des grands enjeux, hein, parce que parfois on a pu faire des vols très longs, jusqu'à 8h, 8h30 parfois dans l'ULM sur certains trajets. Parfois dans des conditions un peu particulières, avec des orages, quand il faut traverser le front intertropical, ou parfois des traversées océaniques. Et donc la gestion des facteurs humains et de l'ambiance à bord est primordiale.
Clémentine, vous mettiez souvent le casque pour écouter de la musique parce qu'il vous agaçait ?
Alors, ça m'arrivait de faire semblant de ne pas l'écouter, mais je pouvais faire que semblant, malheureusement, parce que la sécurité, fallait quand même exiger quand même qu'on puisse se parler.
Bon, ça n'a pas toujours été simple, ce tour du monde, forcément. Clémentine, non, d'abord question, tiens, pour Adrien, après la Guyane, soyons un peu chronologiques pour une fois, direction le Brésil, et alors là, il y a une soupe de poisson qui a failli mettre fin à votre voyage. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Oui, à Boa Vista, on a des gens de l'université qui veulent être super sympas, qui nous emmènent voir un concert de musique locale, génial, et avec une boisson locale, la demorada, c'est une espèce de soupe de poisson super, sauf que ce jour-là, le cuisinier a changé le poisson, et c'est un poisson avec vachement plus d'arêtes, et j'en prends une dans la gorge. Alors, la scène qui suit est géniale, parce qu'on a la totalité du bar qui vient avec nous à l'hosto, pour accompagner les copains français, c'était marrant.
Oui.
Et puis en fait, le chirurgien qui a la délicatesse de me faire une endoscopie dit non, il y a rien du tout, il y a pas de souci. Puis l'arête, je me la suis trimballée pendant 3 semaines. Donc je fais un bel audit des systèmes d'endoscopie en forêt amazonienne. J'en ai fait une à Iquitos et une autre à Tabatinga.
Pour chercher l'arête,
voilà. Et donc c'est dans une clinique à Tabatinga qu'on a fini par me l'enlever. Et sur les murs de la clinique avant d'arriver, il y avait une peinture murale en 4x4 avec un chirurgien en train d'opérer à cœur ouvert, les mains tenues par Jésus. Et je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, c'était une ambiance étonnante.
Bon, Clémentine, vous aussi, vous avez souffert pendant ce voyage. Vous allez nous raconter ça dans un instant.
Un bras à base de danette, je crois.
Ah oui, ça va donner faim, ça, tiens.
Vous écoutez RTL.
Moi, c'est Clémentine.
Moi, c'est Adrien.
L'objectif, rencontrer des scientifiques aux quatre coins du globe, participer à leurs recherches sur le terrain et leur apporter un appui aérien.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un tour du monde pas comme les autres, c'est ce que nos invités ont vécu il y a 2 ans. Plus de 50 pays survolés en ULM, 60 000 kilomètres, le tout raconté dans un livre des Ailes pour la Science publié aux éditions Le Pommier. Deux belles images, vous nous l'avez raconté, et quelques mauvaises surprises. Clémentine, par exemple, vous faites une mauvaise réaction au vaccin BCG. À quoi ressemble votre bras ?
Alors, en fait, ça s'est passé vraiment au début du voyage. Oui. Donc, j'ai fait le vaccin avant le départ. Et progressivement, l'endroit du vaccin a commencé à gonfler un peu. Et alors, je ne me suis pas beaucoup inquiétée, mais ça gonflait. Et arrivé en Islande, j'arrivais plus à passer ma combinaison avec le bras. C'était tellement gonflé. C'était comme un œuf de poule qui serait posé sur mon avant-bras. Mmh. Et c'était bien solide. Donc, ça faisait pas mal du tout. Mais ça commençait à devenir vraiment gênant. Et à un moment, alors que justement, je m'étais disputée avec Adrien, vous parliez de ce que c'était que voyager en couple. Donc, je m'étais disputée avec Adrien et donc j'étais partie toute seule me balader dans la ville. Et j'arrive en me disant, bon, allez, quand même, il est temps de m'occuper de ce bras avant qu'on parte, qu'on aille au Groenland, où là, ça sera sans doute plus compliqué. Et alors, je vais dans une librairie où je trouve une carte de la ville qui m'indique un hôpital, donc j'y vais. Et en fait, pas de chance, c'est un hôpital complètement désaffecté, qui était bien abandonné, qui était en travaux, digne d'un film d'horreur, avec vraiment à moitié effondré, avec vous savez, il y avait des portes qui avaient été arrachées, il y avait des brancards qui traînaient à moitié défoncés, enfin avec les lumières qui fonctionnaient pas, il y avait rien qui fonctionnait, l'ascenseur était en panne.
Qui vous a opéré alors ?
Et ben, je rentre à l'intérieur en me disant, bon, bah, quitte à pas me faire soigner, au moins je vais visiter cet endroit qui a l'air, marrant. Et donc, je rentre à l'intérieur et là, incroyable, je croise un homme en blouse blanche qui était donc, comme c'était pas éclairé, je le vois arriver vers moi, mais dans un couloir très sombre. Donc là, je commence à m'inquiéter vraiment. Et puis alors, il me crie quelque chose, mais évidemment en islandais, donc je comprends rien. Je m'approche. Et puis là, il insiste. Et alors, je lui dis en anglais, mais are you a doctor? Quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes médecin? Et il me dit, oui, oui, mais vous devez pas être là, vous devez pas être là. Et alors, je lui dis, attendez, je veux juste vous montrer un truc. Et donc, j'avance vers un coin qui était à peu près lumineux parce qu'il y avait une fenêtre qui laissait passer la lumière du jour. Et là, je lui tends mon bras. Et en voyant mon bras, il m'attrape le bras, il me dit oh, « Ok, ok !» Et puis là, il me tire vers lui pour aller vers plus de lumière. Donc je me dis « Oula, c'est peut-être plus grave que ce que je pensais, ce que j'avais au bras. » et alors, il reste comme ça près de mon bras, et puis il prend son téléphone portable, il passe quelques coups de fil, il parle en islandais, je comprends toujours rien, mais il a un ton un peu inquiet. Et finalement, il raccroche, il me dit « Bon, j'ai appelé des collègues à la rescousse, restez ici, on va s'occuper de vous. »
Et là, vous n'avez pas peur, vous partez pas en courant. Moi, on dit, vous restez ici, on va s'occuper de vous.
Je me suis dit, en même temps, c'est ma seule chance, il y a un médecin en face de moi.
Et on vous a opéré, qu'est-ce que vous aviez ?
Je pense que c'est maintenant qu'on va parler de la crème dessert, c'est ça ?
C'est ça.
Je crains le pire.
On m'a vanté une matière d'aneth dans votre bras.
C'est à peu près ce qui s'est passé. Donc en fait, ils ont essayé, donc, c'était quelque chose d'assez épais vraiment, et de très solide, très dense, que j'avais sur le bras, mais qui n'était pas douloureux du tout. Et en fait, ils essayent de le percer. Et alors là, il y a une douleur absolument horrible qui m'attrape. Donc je hurle, je me débat. Il y avait deux autres médecins qui l'avaient rejoint, donc ils étaient à me tenir parce que je me débattais vraiment. Et j'étais en larmes et je leur ai dit, c'est pas possible, la douleur est pas soutenable, je peux pas.
Pendant qu'Adrien faisait la tête, je le rappelle.
Ah non, parce que à ce stade, moi j'avais été appelé par un Islandais. Du coup, j'avais appliqué Fissa en me disant, elle est sur le point de mourir.
Vous opérez pas ma femme comme ça.
Je suis arrivé devant un espèce de carnage, c'était Brendan. Et je suis allé m'évanouir à côté.
Non, Adrien, c'est pas vrai. C'est après qu'il m'ait fait mal, que j'ai été en larmes, qu'ils m'ont mis de la pommade sur le bras. Et qui m'ont donné des anti-inflammatoires, enfin je sais pas trop, quelque chose pour calmer la douleur, et qui m'ont dit, est-ce que vous voulez appeler quelqu'un? Et là j'ai dit, bon ok, je vais appeler Adrien quand même. Bon. Parce que quitte à, avant de mourir, je vais quand même l'appeler.
Cette mission quand même, ce tour du monde, pas comme les autres, c'était pas que pour faire des expériences sur votre corps, hein, Clémentine Bacry, mais c'était aussi pour mener des missions scientifiques. Vous êtes allée au Canada, par exemple, et vous arrivez sur les îles Mingan. Qui vous a demandé de l'aide, Adrien Normier?
Alors là, on a Richard Sears, qui est un des pionniers de la photo-identification des baleines, qui nous a demandé de venir lui filer un coup de main pour étendre son champ de recherche. Lui, il opère deux zodiacs, avec lesquels son groupe de chercheurs s'occupe de recenser et identifier tous les mammifères marins qui viennent dans la région. En été, les baleines remontent vers l'hémisphère nord pour se nourrir du krill, les petites crevettes, qui sont à 300 mètres de fond, là, dans le golfe du Saint-Laurent. Il se trouve que l'année où on est là-bas, il y a un enjeu particulier. Il y a un moratoire sur la prospection pétrolière qui est sur le point d'être levé dans le golfe du Saint-Laurent à partir d'un argumentaire complètement bidon qui dit peu ou prou la chose suivante. Puisque ça fait 30 ans que les scientifiques voient autour de leur station de recherche des baleines, à 30 km autour de la station de recherche, ça veut dire que partout où ils n'en voient pas, il n'y en a pas, et que donc on peut mettre en œuvre des canons à air comprimé qui font des ondes de choc très puissantes qui vont désorienter les animaux et en tuer une partie.
Donc vous devez prouver qu'il y a des baleines dans cette zone, c'est ça ?
Voilà.
En survolant la zone.
En survolant la zone, repérant des groupes d'animaux, faisant des photos géolocalisées qui permettent d'étayer le dossier qui finalement empêcher la fin de ce
moratoire.
Ça a marché pour l'instant. Alors la discussion est toujours en cours, c'est politique et il y a des intérêts de la province de Québec pour avoir récupéré du pétrole. Et voilà. En gros, on a passé 3 semaines à arpenter toute cette zone de manière méthodique pour compter les animaux. Et on a également guidé les scientifiques pour qu'ils puissent faire sur certains groupes d'animaux des biopsies.
Des prélèvements.
Des petits prélèvements.
Donc vous leur disiez, les baleines sont là, venez, et ils ont pu faire des prélèvements.
Exactement. Et ces prélèvements, c'est assez étonnant. En fait, ils envoient des espèces de petites fléchettes qui enlèvent comme un punch de dermatologue de la peau de la baleine, qui retombe, qui flotte. Et qu'on récupère.
Ben voilà, une autre belle histoire à lire dans votre livre Un tour du monde pas comme les autres, des ailes pour la science, publié chez Le Pommier. Merci Adrien, merci Clémentine Bacry, et bon vent à tous les deux, parce que vous allez repartir, je crois, l'année prochaine. Vous reviendrez nous raconter tout ça. C'est la fin de cette émission.
Vous écoutez RTL.